L'assassinat du courrier de Lyon, chapitre 7. Courriol affirme que le Zurk est innocent. Le directoire ordonne une enquête. Le corps législatif repousse la révision. Lettre de le Zurk à sa famille. À la sortie du tribunal, les condamnés furent emmenés au greffe de la prison de la Conciergerie. Courriol plastronnait. David Bernard se lamentait, Richard pleurnichait. Mais tous trois étaient d'accord pour avouer la part que chacun avait prise au crime, et aussi pour assurer, en présence du fils du concierge, que le Zurk n'en était pas et qu'il avait été pris pour un autre. Mais, ainsi que le président Goyer l'avait dit à Madeleine Bréban, il n'était plus temps. Tandis qu'on le réintégrait dans son cachot, le Zurk, faisant front courageusement à l'adversité, se pourvoyait immédiatement en cassation et rassemblait, dernière ressource, les éléments d'une requête au directoire. Courriol, comme obsédé par ce besoin de justice qui se réveille souvent au moment suprême dans le cœur des scélérats, demandait instamment à faire des révélations aux magistrats du bureau central. Mandé par eux, il leur affirma. Le Zurk, Bernard et Richard n'ont pas pris part à l'assassinat. Les véritables coupables sont les citoyennes du Bosc et Vidal. Madeleine Bréban peut donner des renseignements sur eux. Bien que cette déclaration concordât absolument avec celle que la maîtresse de Courriol avait faite au président Goyer dans son cabinet, il n'en fut tenu aucun compte. Et Madeleine Bréban ne fut même pas interrogée. Quelques jours après, Courriol suppliait les mêmes magistrats de l'entendre. Il avait, disait-il, de nouveaux renseignements à leur donner. Le commissaire Limodin, accompagné de deux inspecteurs, se rendait le même jour à la prison de Bicêtre où Courriol avait été transféré. Voici ce que lui dit le condamné. « Les vrais coupables, je vais vous les nommer. C'est Dubosc, demeurant rue Croix des Petits Champs, la dernière maison à gauche, en face de l'armurier et soi-disant bijoutier. Taille 5 pieds 3 pouces et demi, né à Lyon. Vidal, dit Lafleur, près le palais Égalité, rue de Valois, en face le café, se disant lui aussi bijoutier de Lyon. Taille 5 pieds 6 pouces, cheveux châtains, marqués de petites véroles. Jean-Baptiste Durochat, dit Laborde, faisant le commerce, 5 pieds 2 pouces, cheveux noirs, brun de figure, demeure rue des Fontaines, en face le temple numéro 8, où Lafleur a aussi demeuré pendant quelque temps. Roussy, l'Italien, rue Martin, vis-à-vis celle de Grenier-Lazare, entre le café de l'Apollon et le Meunier, cheveux bruns, 5 pieds 6 pouces, il se disait marchand, ayant des relations au bureau des postes. La fille Bréban, mon amie, les connaît bien. Elle les a vues souvent chez moi. Durochat, sous le nom de Laborde, a pris place dans la malle de Lyon, à côté du courrier. Les autres sont partis le 8 floréal dernier, montés sur mes chevaux. Je les ai rejoints, une heure après leur départ, à la barrière de Charenton. Nous avons dîné et pris le café à Mongeron. Le lendemain, nous sommes rentrés tous les 5 à Paris à 5 heures du matin. J'ai mené les chevaux avec Vidal chez Aubry, rue des Fossés Saint-Germain. Dubosc est rentré chez lui avec Durochat et Roussy, où Vidal et moi les avons rejoints. Alors nous avons partagé le butin. Roussy et Durochat ont été les vrais chefs de l'entreprise. Le sabre et l'éperon appartenaient à Dubosc, qui est retourné chercher le sabre à Lieusaint. C'est Dubosc qui ressemble beaucoup à Le Zurk, et Vidal, qui a un faux air de Guénaud, qui se sont promenés à pied à Lieusaint. Bien que la police eût au fond le plus vif désir d'étouffer ces si graves révélations, il était bien difficile de ne pas en tenir compte. De nouveaux témoins furent entendus. Le menuisier Cauchois et le cordonnier Goulon, qui déclarèrent au juge de paix de la section du temple, chargé de les interroger, qu'à l'époque du jugement de Couriole, la fille Bréban était venue les voir et qu'elle leur avait dit « On va faire périr des innocents. Couriole est seul coupable. Dubosc et Vidal sont les vrais coupables. Le Zurk a été pris pour un autre. Ce qui a causé la méprise, c'est que le Zurk a des cheveux blonds et que Dubosc avait une perruque blonde. » Cauchois ajoutait qu'aussitôt qu'il avait été instruit de ces faits, il avait tenté des démarches auprès des juges du tribunal, sans avoir pu obtenir satisfaction. Un sieur Perrin, portier d'une maison 6 rue des Fontaines, déclara qu'il avait déjà logé chez lui un particulier se nommant Vidal, qui, quelques jours après, lui avait dit qu'il allait partir pour Lyon et que pendant son séjour, il avait vu venir plusieurs fois un grand homme blond, un autre petit de taille et un troisième, trapu, ainsi qu'une femme en leur compagnie. Enfin, Madeleine Bréban, de nouveau interrogée, déposa. Avant l'assassinat du courrier de Lyon, Vidal et Roussy venaient souvent chez Couriole. Dubosc y venait aussi, quelquefois. Je n'y ai jamais vu venir le Zurk. J'ai seulement vu ce dernier, qui ressemble beaucoup à Dubosc, une seule fois chez Richard, après l'époque du 8 Floréal. Malgré ces déclarations qui pourtant renfermaient les précisions les plus troublantes, le pourvoi des trois accusés était rejeté par un arrêté du 17 Vendémiaire en 5. Maître Guigné présentait alors au directoire une requête demandant qu'il fût sursis à l'exécution de la peine jusqu'à ce qu'on ait pu vérifier les déclarations de Couriole. Couriole, en effet, ne cessait de s'agiter dans sa prison de Bicêtre. Non seulement il persistait dans ses déclarations, mais, s'étant trouvé un jour en présence de David Bernard, qui lui reprochait de déployer pour le Zurk plus de zèle que pour lui, il s'écriait « Tu n'as pas assassiné le courrier, mais tu as profité de l'assassinat. Le Zurk n'a ni assassiné ni profité du vol. Il nous est tout à fait étranger. Tu le sais aussi bien que moi. » L'opinion publique, de son côté, commençait à s'émouvoir. L'attitude et les procédés du président Goyer n'avaient été sans révolter un certain nombre de gens qui assistaient aux dernières audiences. La thèse de l'innocence de Le Zurk recrutait un certain nombre de partenaires, et parmi eux Madame Tallien, dont l'influence était considérable. Il est bien probable qu'elle fut pour quelque chose dans la conclusion du rapport inspiré par Barat au citoyen Sirois, chef de division au ministère de la Justice, et qui, après avoir conclu au sursis, décidait de soumettre l'affaire du courrier de Lyon à la décision du Conseil des 500, assemblée qui formait alors avec le Conseil des Anciens les corps législatifs. Le message des trois directeurs était en effet des plus significatifs. Nous n'hésitons pas à le reproduire dans son intégrité. Citoyens législateurs, le nommé Le Zurk, condamné à mort, avec un nommé Couriole, pour l'assassinat du courrier de Lyon, a été déclaré innocent par ce dernier, après le jugement rendu contre eux. Couriole a assuré que la ressemblance de Le Zurk avec un des complices de l'assassinat, qu'il nomme et qui n'est pas pris, a pu tromper les témoins. Les déclarations de Couriole sont confirmées par celles de quelques autres personnes entendues après lesdites déclarations, postérieurement aussi, par conséquent, au jugement rendu. Le Zurk s'était pourvu en cassation, mais cette juridiction a estimé que toutes les formes prescrites par la loi avaient été observées. On a pu, conséquemment, casser la procédure. Quelle marche convient-il de suivre dans cette circonstance? Le Zurk, s'il est innocent, doit-il monter sur l'échafaud parce qu'il ressemble à un coupable? Le directoire appelle votre attention sur cet objet, citoyen représentant, et il vous fait observer qu'il n'y a pas un instant à perdre, puisque demain matin, le jugement à mort doit être exécuté. Le Zurk, sa femme, les siens, tous ses amis, tous ses partisans reprirent de l'espoir. En effet, le sursis fut accordé et trois représentants, les citoyens Siméon, Crassou et Treillard, furent chargés, à titre de commissaire, d'examiner l'affaire. Que se passa-t-il entre eux et autour d'eux? Sous quelle influence délibérèrent-ils? Fut-elle seulement celle de leur conscience? L'amitié personnelle qu'il y ait deux d'entre eux au citoyen Goyer ne faussa-t-elle pas, même inconsciemment, la balance de la justice qu'on leur avait confiée? Ou bien leur conviction seule détermina-t-elle leur décision? Nul ne saurait le dire. Toujours est-il que, bien que Couriol leur eût adressé une longue lettre dans laquelle, après avoir renouvelé ses précédents aveux, il suppliait que la police recherchât aussitôt les quatre individus qu'il avait désignés et qui étaient ses seuls complices, bien que Maître Guigné, le défenseur de l'Euzurque, dans le remarquable et lumineux mémoire que nous avons sous les yeux, eût mis en valeur tous les arguments si frappants qui militaient en faveur de son infortuné client, bien que le juge Daubenton, enfin éclairé et aussi ardemment convaincu que l'Euzurque était innocent, qu'il avait tout d'abord cru qu'il était coupable, fût venu les adjurer de l'aider à réparer la terrible erreur judiciaire dont il portait la responsabilité initiale, les commissaires Siméon, Treillard et Crassou concluaient, dans un rapport conçu et rédigé avec un esprit de parti aussi violent que celui avec lequel le citoyen Goyer avait dirigé les débats, que, lorsque les jurés ont déclaré que l'accusé est convaincu d'un crime et qu'on peut encore discuter sur cette conviction, c'est détruire toutes les règles de l'ordre judiciaire, c'est préparer de vastes bases à l'impunité, c'est livrer la société à l'audace des scélérats et la justice à leurs décisions. Thèse effarante, effroyable même, puisqu'elle proclame l'infaillibilité de la justice humaine et qu'elle nie même la possibilité de toute erreur judiciaire. Certes, nous sommes de ceux qui n'ont cessé et ne cesseront jamais de proclamer que tout crime doit être châtié sévèrement et promptement. Et nous déplorons que, trop souvent, certains coupables bénéficient d'une indulgence qui ne peut qu'engendrer les pires résultats. Mais nous estimons aussi que tout juge, magistrat, ont juré de s'entourer des garanties les plus sévères. On ne doit jamais faire bon marché de la liberté et de l'existence humaine. Pas plus dans l'instruction d'une affaire que dans les débats qui s'ensuivent, ceux qui ont reçu la mission sacrée mais redoutable d'être les justiciers ne doivent se laisser entraîner par des considérations autres que celles de l'accomplissement de leur mandat dans toute son intégrité. Qu'ils se montrent accessibles à la pitié, soit, mais qu'ils se gardent de toute faiblesse et surtout de toute complaisance, pas plus à l'égard de ceux qui sont accusés que de ceux qui accusent. La loi doit être égale pour tous. Voilà ce que personne ne devrait jamais oublier. C'est le seul moyen de la faire aimer et observer par ceux qui en attendent aide et protection, et de la faire craindre par ceux qui s'exposent à en subir l'étreinte. Ceci dit, revenons au rapport des trois commissaires. Nous en citerons seulement la déplorable conclusion. Ce n'est point au corps législatif à juger l'Euzurque. Il l'a été dans les formes présentes par la Constitution. Il l'a été comme tous les citoyens. Si vous vous exposez à ce que chaque condamné vienne solliciter votre bienveillance, comme autrefois celle des princes, comme eux, vous serez frappés et trompés. Et mettant des intentions et des sentiments à la place des règles, vous introduirez, sous le prétexte le plus séduisant, un arbitraire dont l'exemple profiterait bientôt aux passions les moins excusables. Votre commission persiste à vous proposer l'ordre du jour. Ce rapport, véritable déni de justice, bourré d'inexactitudes et de sophismes, ne fut ni imprimé ni distribué aux membres du Conseil. Les 500 étaient d'ailleurs absorbés par le vote d'une loi qui interdisait les fonctions publiques aux parents des émigrés. Le directoire voulait la conservation de la loi. La majorité du Conseil en demandait l'abrogation. C'était la grande bataille politique. Aussi, le Conseil entendit-il d'une oreille discrète la lecture de ce factum dont il vota rapidement les conclusions. Le lendemain, le ministre de la Justice Merlin, de Douai, écrivait au président du directoire que l'arrêté de sursis devait être rapporté sans délai ultérieur, que l'humanité ne permettait pas de prolonger les supplices d'hommes qui sont voués à une mort inévitable et que, d'ailleurs, il était possible que les condamnés profitassent des retards pour corrompre leurs gardiens et s'évader. Sans délai, le directoire rendait un arrêt conforme à cette requête. Cette fois, le Zurk était irrémédiablement perdu et l'on commença à dresser l'échafaud. Lorsqu'il apprit que tout était fini, le Zurk se prépara à la mort avec courage. Il obtint la faveur de dire adieu à sa femme et à ses enfants. L'entrevue eut lieu à la conciergerie. Elle fut déchirante. Le peintre Hilaire Ledru, le fidèle ami du condamné, avait obtenu l'autorisation de prendre un croquis du malheureux dans sa prison. Il nous en a laissé un tableau saisissant. Tandis que sa malheureuse femme, éperdue, sanglotante, déjà vêtue de deuil, s'appuie au mur de la prison, tout en contemplant du regard d'atroce détresse celui qu'elle voit pour la dernière fois, le Zurk se penche vers sa fille Mélanie, qui l'entoure de ses bras. Son fils Paul lui embrasse la main. Et la petite Virginie, en larmes, tend vers lui ses menottes tremblantes, comme pour en implorer une caresse suprême. Debout, dans l'ombre, à l'écart, les bras croisés, un guichetier, ses clés à la ceinture, assiste, impassible, à cette émotionnante entrevue. N'insistons pas, les mots seraient impuissants à décrire ce que peut être cette minute où, obligé de s'arracher au baiser des siens, le Zurk entendit se refermer sur eux la porte de sa cellule. Et pourtant, il ne faiblira pas. Demeuré seul, il va employer sa dernière nuit à mettre en ordre ses affaires personnelles et à régler l'état de ses dettes actives et passives. Dans cette sorte de testament qui révèle un calme extraordinaire, nous lisons ceci. Du 8 louis au citoyen Legrand, qui a un peu aidé à me faire assassiner, mais je lui pardonne de bon cœur, ainsi qu'à tous mes bourreaux et assassins. Il écrit à plusieurs de ses amis, puis à son sosie Dubosc, une lettre ouverte qu'il demande à son gardien d'adresser aux journaux. Écoutez cette suprême et tragique adjuration. Vous, au lieu duquel je vais mourir, contentez-vous du sacrifice de ma vie. Si jamais vous êtes traduit en justice, souvenez-vous de mes 3 enfants couverts d'opprobre et leur mère au désespoir, et ne prolongez pas tant d'infortunes causées par la plus funeste ressemblance. Enfin, il se coupe lui-même les cheveux et il les envoie à sa femme avec cette lettre, la dernière. Le 8 Brumaire, en 5. À la citoyenne veuve Le Zurk, rue Montmartre, 255. Ma bonne amie, quand tu liras cette lettre, je n'existerai plus. Un fer cruel aura tranché le fil de mes jours, qui devaient être tous à toi et que je t'avais consacré avec tant de plaisir. Mais telle est la destinée que l'on ne peut fuir en pareil cas. Je devais être assassiné juridiquement. Ah, j'ai suivi mon sort avec constance et un courage digne d'un homme tel que moi. Puis-je espérer que tu agiras de même? Plus d'un motif t'y engage. Ta vie n'est point à toi. Tu la dois à tes enfants et à ton époux, s'il te fut cher. C'est le seul vœu que je puisse former. Je te dis un éternel adieu et compte que mon dernier soupir sera pour toi et mes malheureux enfants. J. Le Zurk. En te remettant mes cheveux, que tu voudras bien conserver, et lorsque mes enfants seront grands, tu leur partageras en égale partie. C'est le seul héritage que je leur laisse. Adieu. Pauvre Le Zurk, jusqu'à la dernière seconde, il devait faire présence d'un admirable courage, d'une sublime résignation. Lorsqu'on vint le prévenir que l'instant du supplice était arrivé, il demanda à revêtir des vêtements blancs, ce qui lui fut accordé, et ce fut avec une sérénité sublime qu'il monta dans la fatale charrette où déjà Couriol et Bernard, vêtus de rouge, l'avaient précédé. Lorsque le cortège s'avança, au milieu d'une foule immense, dans ses vêtements blancs symbole de son innocence, et la tête entourée de je ne sais quelle auréole, on eût dit un véritable martyr. David Bernard, plus mort que vif, semblait avoir perdu la notion de la réalité. Quant à Couriol, qui, lui, avait gardé toute son énergie, il ne cessa de clamer jusqu'au pied de l'échafaud « Je suis coupable, mais Le Zurk est innocent !» Quelques minutes après, Bernard David était exécuté. Ce n'était plus qu'une loque. Couriol fut décapité le second. Puis, d'un pas assuré, Le Zurk gravit les degrés de l'échafaud. « Je pardonne à mes juges, » fit-il. « Ah mais... » Les aides du bourreau s'emparaient de lui et le couchaient sur la bascule. Le couperet tombait, tranchant une fois de plus la tête d'un innocent. L'affaire du courrier de Lyon n'était pas terminée. Elle continuait. On pourrait même presque dire qu'elle recommençait.